tout est là pour nous faire peur, nous inquiéter. Mmh. Julien Morissette, bonjour Julien.
Bonjour.
Alors, je suis déjà angoissée. Est-ce que c'est le but de la chose, de l'opération?
Ah ben, le but, c'est ouais, de susciter des réactions, de jouer avec le public également, là, donc de créer un engagement parce qu'il y a tellement de balados de tout type. Les projets qu'on aime faire à Transistor sont ceux qui suscitent des émotions. Et ben là, comme c'est devenu une tradition presque chaque automne maintenant, là, on le fait année après année, des nouveaux récits qu'on raconte dans Hanté par le moyen des mots, de la musique, de fausses entrevues. On a beaucoup de plaisir à faire ce projet-là.
Alors, la première saison se déroulait dans le vieux Elmer, la deuxième oui. dans la région de Pontiac, une région qui vous tient à cœur et que vous voulez faire découvrir au plus grand nombre, Julien.
Oui, c'est une portion de l'Outaouais, donc à l'extrême ouest de l'Outaouais, en montant vers le Témiscamingue. C'est un lieu que peu de gens connaissent au Québec et au Canada.
Et pourtant, c'est tellement beau!
Oui, ça, c'est vrai. C'est magnifique. C'est un trésor
caché.
Très bien gardé.
Oui.
Trésor caché de l'Outaouais qui a un riche passé politique, linguistique aussi. Il y a beaucoup de... Et nous, on est en Outaouais, donc le studio de Transistor est à 10 minutes de la colline parlementaire. On est à côté de la rivière des Outaouais et ça définit beaucoup de notre histoire au cours des 200-300 des 2-3 derniers siècles. Mm-hmm. Des tensions entre communautés anglophones qui ont des racines en Irlande et en Écosse et des communautés francophones aussi qui se sont établies dans le Pontiac. Donc, beaucoup de tensions, mais aussi beaucoup de projets qui n'ont pas le rayonnement qu'ils méritent dans des villes comme Shawville, Fort-Coulonges qui sont souvent très anonymes dans les considérations politiques ou culturelles, mais avec Hanté, l'objectif était justement de jeter un peu de lumière, ou des fois un peu de noirceur, qui se passe dans ces coins de pays.
Bien oui, Julien, est-ce que Pontiac est reconnu pour être hanté?
Oui, vraiment, parce que je ne sais pas si c'est en raison des... Il y a beaucoup de bâtiments de fermes qui sont abandonnés. Il y a des camps de bois aussi parce que l'industrie du bois a vraiment été le moteur économique de la région. Puis l'industrie du bois a quand même chuté pas mal dans les dernières années. Ce qui fait en sorte qu'il y a un esprit un peu de village abandonné, un peu far west, laissé à l'abandon. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des booms économiques puis après ça, rapidement, les gens ont déserté. Donc, ça crée une ambiance, effectivement, de village désert. On se promène tout le long de la route 148. C'est ce qu'on fait dans la saison 2 de Hanté. Et moi, je l'ai souvent fait parce que, bon, c'est pas tellement loin. Puis, il y a quelque chose d'inconnu dans cette région-là. Et moi, ça m'attire, ce type de lieu-là. Donc, de me retrouver dans des églises, dans des vieilles maisons de ferme, de voir aussi des enquêtes paranormales de gens qui font ça pour vrai. Nous, on fait de la fiction avec ça, mais on s'inspire des activités de regroupement, de chasseurs de fantômes. Et moi, souvent, ce qui m'intéresse dans ces récits-là, c'est d'en apprendre sur la vie des gens qui ont vécu dans ces maisons-là, les communautés qui ont soit disparu ou qui se sont transformées dans ces lieux-là. Donc, de vraiment explorer à travers la lucarne du paranormal l'héritage culturel d'une région.
Mm-hmm. Vous le précisez là, que ce sont des histoires fictives,
oui.
Mais on a de la difficulté quelquefois à se rendre compte qu'on est dans la fiction, on pense qu'on est dans un documentaire.
Oui, ben je passe beaucoup d'heures dernièrement à répondre à des courriels, à des appels, à des messages. Puis j'ai
aussi
discuté avec les éditrices et éditeurs, mais les gens veulent savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a des gens qui, des fois, refusent même de me croire quand je dis que c'est faux. Donc, ça crée des belles mises en abîme. Mais on a aussi des amis qui font des balados de cas réels, qui reçoivent des messages de gens qui ont écouté Hanté pour avoir plus d'informations ou pour leur donner une piste.
Ah oui.
Vous devriez enquêter sur cette histoire-là. Donc, on répond à tous les messages. On explique aux gens que l'objectif, c'est pas de rire d'eux, mais de marcher, de danser sur la ligne entre le vrai et le faux et la façon dont on fictionnalise des fois certaines histoires qui sont arrivées. Il y a des documents, on l'entendait dans l'extrait que vous avez diffusé, il y a réellement des gens qui ont accordé des entrevues à la fin du 19e siècle, début du 20e, à propos de certaines histoires, des gens qui ont déclaré, qui ont signé des documents pour dire « voici telle chose est arrivée », des hommes de foi qui sont allés dans le Pontiac pour témoigner de entre autres, du poltergeist qu'on entendait. Il y a donc des traces dans les journaux, dans les archives d'événements de la sorte et je me suis rendu compte en consultant ça, en lisant la littérature à ce sujet-là, que dans le monde occidental, il y avait eu quand même une distance de plus en plus grande entre ce qui était lié au spiritisme, au paranormal et à la science qui est dite plus pure, parce que à l'époque, Thomas Edison ou Nicolas Camille Flammarion en France faisait des recherches scientifiques très, très poussées, exactement, mais avait aussi un grand intérêt pour les questions liées à la vie après la mort, au spiritisme. Donc, ce sont des gens, et Percy Woodcock également, qu'on entendait dans l'extrait, c'est un peintre canadien reconnu. Ses tableaux sont enseignés, sont présentés au Musée des beaux-arts du Canada et partout à travers le monde. Mais toute sa vie, cet homme-là a cherché des réponses spirituel à ces questions, à des questions morales, à des questions religieuses, et ça a commencé en 1889 dans le Pontiac, qui était très curieux de savoir ce qui se passait par rapport à ce poltergeist qui était signalé. Donc, des gens qu'on pourrait dire très sérieux, on le verrait peut-être moins aujourd'hui. Il y a une certaine gêne par rapport à nos croyances liées à la vie après la mort, aux fantômes, aux esprits, mais quand on diffuse cette série-là qu'on n'impose pas aux gens la croyance de dire « nous, on croit que les esprits, ça existe », c'est plutôt le contraire. Je vous dirais que ça fait un bon matériau de fiction, mais ça ouvre quand même des dialogues et des discussions sur notre rapport au deuil, à la vie après la mort, justement, à nos croyances. Donc, moi, ce que ça suscite, je m'y attendais pas, mais ça s'est passé l'année dernière quand on a lancé la première saison, et c'est pour ça que j'étais motivé à faire une deuxième saison, c'est d'entendre parler du quotidien des gens, de leur rapport, justement, à ces questions-là, mais aussi à toutes sortes de récits, de témoignages, et je ne jugerai jamais les gens qui croient aux fantômes. Au contraire, je trouve que ça ouvre toujours des discussions, des dialogues fort intéressants et pertinents.
Et vous, Julien Morissette, j'entends bien que vous ne croyez pas aux fantômes, mais d'où vous vient votre fascination pour le paranormal?
C'est une très bonne question. J'avoue que on ne me l'a pas posé encore. Je vous dirais que ce qui a rapport à... c'est probablement dans la littérature. Je me souviens qu'enfant, j'aimais beaucoup lire Edgar Allan Poe, Mallarmé. J'aimais tout ce qui était lié à des éléments plus romantiques peut-être de la littérature, et aussi j'aime le true crime, j'aime le genre littéraire, le genre balado du true crime. Alors tout ça se retrouve, on dirait, dans le paranormal. Ce sont des récits dans lesquels il y a une bonne trace de romantisme, mais aussi d'enquête policière. Fait que c'est la rencontre de ces deux passions-là, je vous dirais.
Et pour créer le balado, j'imagine que vous n'êtes pas seul. Il y a une équipe, il y a quelqu'un qui s'occupe de la recherche, du son. On entend aussi des intervenants dans les différents épisodes. Là, est-ce que vous travaillez en grand nombre, bien entouré?
Tout à fait. Comme tout projet à Transistor, c'est souvent porté par ma voix, mais il y a tellement de gens en studio et dans nos bureaux qui s'assurent de bien pouvoir concrétiser ces projets-là. Il y a une recherchiste qui a travaillé avec nous sur cette saison-là, qui a fait beaucoup de terrain, qui a parlé à beaucoup de gens dans le Pontiac. Moi aussi, je me suis rendu là à de nombreuses reprises dans la dernière année. Jean-Sébastien Côté, qui est notre concepteur sonore, directeur de création aussi, qui a signé toute la musique originale. Il n'y a pas une note de musique ou un son qui vient d'une banque de sons. C'est tout est créé dans nos studios ou sur le terrain. Il y a des gens qui font la script édition, qui m'aident avec les scénarios, parce que c'est tout est écrit et révisé à la lettre. Et pour cette saison-là, on a eu la chance de travailler avec Radio-Canada Audio, qui est un partenaire très important de Transistor Média dans nos productions, qui est en mesure de nous donner les moyens de nos ambitions quand on veut faire de la fiction, parce que des fois, ça a l'air d'être pas grand-chose. Puis je recevais des messages hier de gens qui me disaient... c'est que vous ayez du financement ou non pour continuer, ça doit être une série qui doit être récurrente, vous devez faire plus d'épisodes, et je dois expliquer aux gens que ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de ressources faire ce type de projet-là, qui est souvent des ressources qui semblent invisibles, mais non, il y a une demi-douzaine, voire une dizaine de comédiens et comédiennes qui ont participé à cette série. Il y a deux, trois personnes qui m'ont aidé au scénario. Donc, c'est le travail quand même d'une quinzaine de personnes faire ces balados-là. Puis tout le monde est très heureux aussi de la réception qui est très chaleureuse.
Mais c'est pas pour rien que vous êtes si populaire au Québec, au Canada, même en France. Le temps file. Peut-être nous suggérer une histoire, malgré que quand on commence à écouter le balado, on veut écouter tous les épisodes, mais une histoire, vous, là, qui vous a fait le plus craquer, là, disons.
Bien, dans la saison 1, je vous dirais l'histoire de l'épisode 2 sur la maison Book Prentice dans nos studios de radio. On a eu beaucoup de plaisir à raconter le passé du nightlife en Outaouais qui est assez riche parce que c'était le petit Chicago à l'époque, au moment de la prohibition aux États-Unis. Les gens venaient beaucoup dans la région de la capitale nationale à Ottawa pour fêter, surtout du côté du Québec.
Okay. Alors,
on a déjà eu un camp de chasse aussi dans la région, dans le Pontiac, justement.
Ça, c'est pour la première saison, deuxième saison en quelques secondes.
Deuxième saison, le musée du Baron à Fort-Coulonge. C'est très intriguant comme histoire. Je l'adore.
Parfait. Et on va suivre la suite, étant donné qu'il y aura certainement une troisième saison. J'ai lu en quelque part que vous vous intéressiez aux collines de l'Outaouais.
Oui, un autre lieu vraiment intriguant. J'espère qu'on va se reparler à pareille date l'année prochaine.
J'espère moi aussi, Julien. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du balado, Hanté.